Vous êtes sur RTL.
8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et à la une, l'audition clé de Michel Fourniret.
Où a-t-il enterré le corps d'Estelle Mouzin ? Le tueur en série sera entendu aujourd'hui et demain après les derniers aveux de son ex-femme, Monique Olivier. Dans l'actualité également, toujours le grand flou à une semaine de la rentrée. Comme cette maman, ils sont nombreux à n'avoir aucune nouvelle des enseignants.
Je pensais qu'on aurait eu des informations un peu plus en amont. Des mails, des lettres. Et là, c'est vrai que ça donne un peu l'impression que même eux, ils savent pas trop comment ça va se passer. Donc ça, c'est pas rassurant.
Et le gouvernement doit préciser sa stratégie anti-Covid ce matin lors d'un conseil de défense à l'Élysée. Et puis le mystère autour de ces sachets de graines envoyés de Chine. Le ministère de l'Agriculture s'en mêle. Surtout, ne les semez pas, elles pourraient être vectrices de maladies.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
17 ans après sa disparition, saura-t-on enfin où se trouve le corps d'Estelle Mouzin, enlevé à Guermantes, en Seine-et-Marne, à son retour de l'école. C'était le 9 janvier 2003. Michel Fourniret est entendu aujourd'hui et demain. En quelques mois, l'enquête a fait un pas de géant. Monique Olivier, son ex-femme, a multiplié les révélations. Vendredi dernier, elle avouait enfin que son ancien mari avait séquestré, violé et étranglé la petite fille dans une maison des Ardennes. Que de temps perdu, dit aujourd'hui l'avocat du père d'Estelle, maître Didier Seban, qui accuse, vous allez l'entendre, les enquêteurs français.
Ah, ils l'ont carrément raté. Quand les Belges remettent Michel Fourniret à la France, ils disent aux enquêteurs français, c'est lui dans Estelle Mouzin. Quand Michel Fourniret écrit au président de la chambre d'accusation pour dire « Je veux être jugé dans l'affaire Estelle Mouzin, dans l'affaire Paris, dans l'affaire Domèche », dans trois crimes qu'il va ensuite reconnaître où il faudra 10 ans, 15 ans pour qu'enfin ces affaires soient instruites sérieusement par la juge Kéris. Mais non, on nous dit « c'est un pervers ». On nous dit « Ah, tout ça s'est passé en Seine-et-Marne, c'est bien loin de ses bases dans les Ardennes ». On nous dit « Il y a cet alibi qui ne tient pas puisque le fils de Michel Fourniret et sa belle-fille diront n'avoir jamais reçu cet appel ». Même les enquêteurs diront à la radio qu'à 99,99%, ça n'est pas Michel Fourniret. Mmh. Au fond, on ne veut pas de cette piste parce que elle vient par d'autres enquêteurs, parce qu'elle vient par les avocats du père. Nous avons fait 3 tonnes de demandes à demander au juge d'aller vérifier les traces ADN. Il y a 20 traces ADN dans la camionnette de Michel Fourniret. Elles ne sont vérifiées que maintenant pour trouver des victimes. On écartera cette piste parce qu'on ne sait pas en France enquêter sur les tueurs en série.
Didier Seban, l'avocat d'Éric Mouzin, hier soir sur RTL dans l'heure du crime, au micro de Jean-Alphonse Richard. Cette accélération tardive de l'enquête, on la doit donc à une femme, la juge d'instruction Sabine Kéris, qui a repris le dossier il y a un an, Thomas Proutot. Son credo, avancer discrètement mais sûrement.
Oui, et c'est une phrase de Michel Fourniret lors d'un interrogatoire en novembre dernier qui résume sans doute le mieux la relation instaurée par la juge Kéris avec le meurtrier mégalomane. Jouer avec une partenaire telle que vous, ça en vaut la peine. Quelques semaines plus tard, le tueur en série lui fait ses premiers aveux explicites dans l'affaire Mouzin. Décrite comme tenace et méthodique, une soutière de la vérité selon l'un de ses confrères, la magistrate de 55 ans est aussi doyenne des juges d'instruction parisiens. Une marque d'expérience gagnée sur des affaires sensibles, mais toujours loin de la lumière et des caméras. Lorsqu'on lui confie ses premiers dossiers Fourniret il y a quelques années, Sabine Kéris relit tout, s'imprègne du personnage et de son double, son ex-femme Monique Olivier, et elle prend le temps d'entendre et de réentendre le couple infernal lors d'interrogatoires menés comme des parties d'échecs jusqu'aux premières révélations sur Estelle Mouzin début 2019. Depuis, la magistrate a remué ciel et terre, audition, fouille, analyse de scellés anciens. De nouveau face à un Fourniret vieillissant, tout à l'heure, la juge Kéris va tenter d'obtenir enfin la pièce manquante, le lieu d'enterrement du corps d'Estelle Mouzin.
Thomas Proutot du service police-justice de RTL.
8h04, le gouvernement peaufine sa stratégie anti-Covid.
Conseil de défense sanitaire ce matin à l'Élysée. On est à une semaine jour pour jour de la rentrée scolaire, vous le savez, et les parents trouvent qu'ils se posent encore beaucoup trop de questions. Reportage en Indre-et-Loire du correspondant de RTL, Christian Panvert.
Agathe et Nicolas ont 3 enfants, Samuel 14 ans rentre en 3e, Elsa 13 ans en 4e et Elliot 10 ans en CM2. À une semaine de la rentrée, Agathe est pour qu'ils reprennent l'école, mais elle est un peu inquiète.
Moi, je pensais qu'on aurait eu des informations un peu plus en amont, des mails, des lettres. Et là, c'est vrai que ça donne un peu l'impression que même eux, ils savent pas trop comment ça va se passer. Et on sent bien que les professeurs ou les écoles primaires ne nous donnent pas non plus d'informations parce que je pense qu'eux-mêmes n'ont pas vraiment d'informations en fait. Donc ça, c'est pas rassurant.
Nicolas se demande comment les enseignants pourront faire respecter les distances dans les salles de classe et dans les cours de récréation en recevant cette fois les effectifs au complet. 2 des enfants devront porter le masque, ce qui a forcément un coût.
Ça fait un gros budget sur le mois, on va dire 500 à 600 euros de plus à l'année.
Elsa, 13 ans, aura un masque comme ses professeurs, ce qui rend les cours plus difficiles à suivre.
Et ils peuvent pas venir nous voir pour nous dire tu dois faire ça, tu dois écrire ça là et tout. Bah oui, moi ça me gêne parce que j'ai du mal des fois en cours et du coup c'est plus compliqué.
Elle n'enlève le masque qu'à la cantine, le seul endroit où, dit-elle, elle peut voir une expression sur le visage de ses camarades.
Christian Panvert, on entendait la question du coût du masque se pose pour certaines familles. Sera-t-il distribué gratuitement dans les écoles? L'idée fait son chemin au sein même de la majorité d'ailleurs. Les départements des Landes et de Seine-Saint-Denis ont déjà annoncé qu'ils distribueraient gratuitement des masques à tous les élèves. De nouveaux cas suspects de coronavirus au Stade Rennais. Un cas positif avait déjà été détecté la semaine dernière. Résultat, les entraînements se dérouleront à huis clos. Rennes doit affronter Montpellier samedi en Ligue 1. Usain Bolt en quarantaine. Le sprinter jamaïcain attend le résultat de son test. Lui, il n'a pas de symptômes, mais affirme avoir pris la décision de s'isoler après s'être rendu à une fête vendredi où les gestes barrières n'avaient pas été respectés.
Vous avez peut-être vu passer son visage sur les réseaux sociaux.
Il s'appelle Augustin. Il a 17 ans et il aurait été violemment agressé vendredi soir à Lyon alors qu'il tentait visiblement de défendre un groupe de filles. Il souffrirait aujourd'hui de nombreuses fractures. Alice Moreno, on emploie le conditionnel car il y a encore beaucoup de zones d'ombre.
Absolument, la version de l'agression ne tient que sur le témoignage d'Augustin à ce stade. Il n'y a aucun témoin de la scène qui se serait déroulé place Bellecour à 23h vendredi dernier. Aucun appel à police secours à ce moment-là. C'est le frère aîné d'Augustin qui a diffusé la version du tabassage dans un message publié sur Facebook. Il explique que son frère cadet a porté secours à des jeunes filles qui subissaient une agression, victime selon lui d'un groupe de 5 racailles colorées. Ce sont les termes qu'il emploie. Augustin se serait interposé et le groupe en question l'aurait, je cite encore, fracassé gratuitement sans que personne n'intervienne, brisant sa mâchoire. Cette version des faits a été largement reprise sur les réseaux sociaux, relayée notamment par des représentants de l'extrême droite. Augustin a déposé plainte ce week-end et la police lyonnaise a ouvert une enquête pour violence volontaire en réunion, mais sans aucun élément de preuve pour l'instant. Les enquêteurs vont utiliser les images de vidéosurveillance de la place Bellecour. Ils ont également lancé un appel à témoins.
Un appel à témoins. Donc merci beaucoup Alice Moreno pour ces précisions. Dans les Bouches-du-Rhône, 900 pompiers sont toujours mobilisés ce matin. L'incendie parti d'Istres en début d'après-midi est fixé, mais pas totalement éteint. 450 hectares de végétation ont été détruits.
8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. Aux États-Unis, à la convention républicaine, Donald Trump affiche la couleur.
En retard dans les sondages, le président américain a décidé d'agiter les peurs, comme on dit. En novembre, ce sera lui ou le chaos. C'est ça le message, hein, Philippe Corbet.
Oui, le camp Trump nous avait annoncé une convention au ton délibérément optimiste, malgré la crise sanitaire et économique, pour s'adresser aux électeurs centristes, au-delà de sa base. Finalement, le ton de la plupart des interventions est très sombre pour décrire l'Amérique à feu et à sang, comme une zone de guerre. Et le meilleur exemple, c'est ce couple blanc inculpé pour avoir brandi un fusil et un pistolet vers des manifestants noirs devant leur maison.
Ce qui nous est arrivé peut aussi facilement arriver à chacun d'entre vous qui regardez depuis votre quartier tranquille.
Les activistes marxistes de gauche mènent la horde vers nos quartiers, encouragent l'anarchie et le chaos dans nos rues. Ces radicaux ne se contentent pas de marcher dans la rue, ils veulent prendre le pouvoir. C'est ça le parti de Joe Biden.
Votre famille ne sera pas en sécurité dans une Amérique des démocrates radicaux.
La horde va essayer de vous détruire.
C'est ça qui est en jeu dans cette élection. C'est pour ça que nous devons réélire Donald Trump.
Ce choix de message confirme que le président pense que pour être réélu, il doit d'abord s'adresser à sa base, l'électriser plutôt que l'élargir.
Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis, alors qu'une nouvelle vidéo de bavure policière fait craindre encore un embrasement dans le pays. On y voit un homme noir visé par 7 tirs. C'est un policier blanc qui tient l'arme. L'homme est en soins intensifs.
Dans 10 minutes, nous serons sur place avec notre correspondant aux États-Unis, Philippe Corbet. Venons-en maintenant à ces cadeaux bien mystérieux.
Vous en avez peut-être été les destinataires, des sachets de graines en provenance de Chine. Cela fait plusieurs semaines maintenant qu'ils arrivent en France par voie postale. Surtout, ne les semez pas. C'est le message du ministère de l'Agriculture qui a décidé, oui, de monter au front. Il y aurait danger, Virginie Garin.
Oui, vous recevez chez vous un paquet anodin et surprise, quand vous ouvrez, vous trouvez des graines de melon ou de haricots que vous n'avez jamais commandées. Le phénomène inquiète les agriculteurs comme Henri Guillemot, il est éleveur de charolaises.
Si c'était le cas d'un acte malveillant, ce serait quand même quelque chose qui pourrait être très très efficace pour introduire des plantes invasives dans un pays et créer une vraie problématique après pour les détruire.
Les autorités américaines ont fait analyser ces graines. A priori, elles n'ont rien d'inquiétant. Elles pensent plutôt à une escroquerie pour faire parler et faire de la pub à des sites de e-commerce. En absence d'explications claires, les agriculteurs demandent la prudence.
Ça peut être aussi des vecteurs de maladies pour les plantes. On ne parle jamais de maladies des plantes, mais il y a autant de maladies des plantes, certainement, qu'il y a de maladies pour les animaux ou les humains. On imagine, surtout en cette période de coronavirus, tout ce qui pourrait arriver si on avait une maladie.
Le ministère de l'Agriculture vous demande donc, si vous recevez ces graines, surtout de ne pas les semer, de les enfermer dans un sac hermétique et les jeter à la poubelle.
Voilà, Virginie Garin pour RTL, voilà, ne semez pas la petite graine.
C'était le journal de Jérôme Florin à 8h35. Ne manquez pas votre rendez-vous. RTL, vous êtes comme ça.
Au moment de payer votre repas, vous dites je veux payer un café suspendu et nous on le note sur notre caisse.
C'est donner sans même savoir à qui on va l'offrir. Et c'est tout ce qui est magique également dans cette action solidaire et bienveillante. Le partage fonctionne très 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 bien.
Renaissance de cette idée de partage.